France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Alors que s'ouvre la COP30 à Belém au Brésil, une question s'impose. Que peuvent la géo-ingénierie et toutes ces techniques qui sont censées inverser ou atténuer les changements climatiques? Sont-elles des solutions ou de dangereuses illusions? 10 ans après les accords de Paris et après 30 COP, le constat est sans appel. La planète se réchauffera de plus d'un degré et demi d'ici 2050. Face à ça, les géo-ingénieurs du climat multiplient les solutions et les financements alloués à ces différentes approches ont bondi. Pour contrebalancer l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, les idées foisonnent. Ensemencer les nuages, déployer des miroirs dans l'espace, retirer le CO2 de l'air grâce à d'immenses aspirateurs, injecter des aérosols dans la stratosphère plutôt que de changer nos modes de vie. Mais que sait-on réellement des risques associés? Géo-ingénierie, peut-on mener le climat à la baguette? Valérie Masson-Delmotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, membre du Haut Conseil pour le Climat et responsable du Centre Climat Société à l'IPSL. Et nous sommes en ligne également avec Marine de Guglielm-Mauvébert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse environnement, énergie et matières premières stratégiques au sein du département armement et économie de défense à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et vous avez publié en 2024 Le Grand Retournement, comment la géo-ingénierie infiltre les politiques climatiques. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Blue Sky. On poste pour vous tous les jours de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quelles sont ces différentes techniques et dans un contexte de fortes incertitudes, comment la géo-ingénierie s'est-elle imposée au fil des années jusqu'à devenir normalisée aujourd'hui? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Valérie Masson-Delmotte, après 30 ans de COP, 10 ans après les accords de Paris, quel état des lieux pouvons-nous faire aujourd'hui?
On voit que l'accord de Paris, depuis 10 ans, a porté ses fruits, au sens où, dans les pays industrialisés, avant 2015, les émissions de gaz à effet de serre baissaient lentement, elles ont baissé plus rapidement. Dans les grands pays émergents, les émissions de gaz à effet de serre montaient fortement. Cette hausse s'est ralentie, il n'y a plus de hausse depuis un peu plus d'un an pour la Chine. Mais néanmoins, au niveau mondial, on continue à ajouter de l'effet de serre. Donc on a un effet d'accumulation de chaleur qui se poursuit. Et puis grâce aux politiques publiques pour améliorer la qualité de l'air, on a émis moins de particules polluantes, on a perdu leur effet parasol. Et c'est la raison pour laquelle, plus d'effet de serre, moins d'effet parasol, on a quand même un réchauffement planétaire qui se poursuit à un rythme rapide. Et si on va jusqu'à l'année 2024, l'année dernière, on peut considérer qu'on est dans un monde 1,36 degrés plus chaud du fait des activités humaines que le climat pré-industriel. À ce rythme-là, on irait vers un réchauffement de l'ordre d'un degré et demi vers 2028-2030. Et puis vers 2 degrés autour des années 2050. Mais l'avenir va dépendre de ce qui va être fait. Et on regarde les trajectoires anticipées par rapport aux politiques publiques qui sont en place, sans tenir compte de ce qui est en train d'être défait aux États-Unis, on irait vers un réchauffement de l'ordre de 2,8 degrés en fin de siècle. Si les engagements qui ont été formulés à horizon 2030-2035 étaient tenus, on irait vers un réchauffement de l'ordre de 2,3-2,5 degrés en fin de siècle, voire moins si les différents pays atteignent la neutralité carbone à différents moments. Mais cela montre que, en tout cas, l'effort qui est mis en place, il n'est pas encore suffisant par rapport aux objectifs que les pays eux-mêmes se sont fixés, ceux de l'accord de Paris, qui sont de limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, avec l'aspiration à la stabiliser à 1 degré et demi. On va dépasser ce 1 degré et demi. D'où ces questions de quoi faire de plus éventuellement.
Ces efforts ne sont pas suffisants. Marine de Guglielm-Mauvébert, justement, quels sont ces efforts nécessaires pour atteindre cette fameuse neutralité carbone d'ici 2050? Quels sont les efforts à mener pour stabiliser le réchauffement d'ici 2050?
Alors je pense que les efforts, on les connaît, ça fait un petit moment qu'on en parle. Il y a cet axe vraiment essentiel de l'atténuation et de la réduction des émissions, donc vraiment a priori des émissions carbone, donc une mobilisation vraiment de l'ensemble des acteurs de la société pour réduire un maximum ces émissions carbone. Et puis, bien sûr, à côté, il y a tout le volet de l'adaptation aussi de nos sociétés, puisque, comme le soulignait Valérie, malgré les efforts qui ont déjà été fournis, on n'en fait pas assez, on n'en fait pas assez vite. Et il faut tout de même préparer nos sociétés à un niveau de réchauffement assez important. Et bien sûr, dans ce contexte-là, dans ce contexte de ce qu'on pourrait appeler un dépassement, en anglais, on dit « overshoot », du seuil en fait fixé par l'accord de Paris de 1,5 degré, on a effectivement des acteurs qui se demandent si on ne pourrait pas aller un peu plus loin. Alors cette fois moins dans le registre des efforts sociopolitiques à mettre en œuvre pour réduire nos émissions, mais plutôt dans le registre de l'innovation technologique pour essayer de compenser ce qu'on ne va pas réussir à faire dans le cadre de notre société. Et ça va vraiment être l'enjeu de la géo-ingénierie.
Les enjeux de la géo-ingénierie, on y vient et on commence avec notre archive du jour.
Aujourd'hui, tout le monde le sait. La Terre est en surchauffe, les phénomènes extrêmes comme les incendies de forêt, les pluies torrentielles et les épisodes de sécheresse se multiplient, et nous en sommes responsables. Et de fait, nous savons ce qu'il faut faire. Réduire rapidement et drastiquement nos émissions de dioxyde de carbone. Alors, en cas d'échec, existe-t-il un plan B ? Serait-il possible d'intervenir sur le système climatique, de récupérer nos émissions de gaz à effet de serre et ainsi de refroidir la Terre ? Et si la situation était d'une telle gravité que la géo-ingénierie n'était plus le plan B, mais la seule issue possible ? Combien de temps nous reste-t-il avant d'être au pied du mur ? Pouvons-nous encore réguler le climat sans agir directement sur le système terrestre ?
Voilà un extrait du documentaire « La géo-ingénierie va-t-elle sauver le climat ?» diffusé sur Arte en 2025. Valérie Masson-Demotte, petit point vocabulaire. Le terme est apparu dans les années 70 avec César Marchetti. Mais que regroupe finalement ce terme « géo-ingénierie » Que signifie-t-il ?
En fait, c'est des interventions à grande échelle sur la machine climatique, le système climatique. Et donc, on peut distinguer plusieurs catégories. Par exemple, délibérément modifier le bilan d'énergie de la Terre, c'est-à-dire les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace, notamment en réfléchissant, en interceptant une partie du rayonnement solaire. Par exemple, en injectant des poussières, des particules polluantes, en fait, dans la haute atmosphère. Ou bien une autre approche, c'est finalement, comme vous le décriviez tout à l'heure, aller chercher les gaz à effet de serre qu'on a déjà mis dans l'atmosphère pour en fait les capter et les stocker à très long terme, donc l'aspirateur. Et puis il y a aussi d'autres approches qui visent par exemple à intervenir plutôt spécifiquement sur la glace de mer ou les régions polaires par rapport aux conséquences du réchauffement particulièrement importantes dans ces régions.
Oui, c'est ça, c'est qu'on a différentes approches de géo-ingénierie climatique. On a ce qu'on appelle la géo-ingénierie solaire et la géo-ingénierie du carbone. Marine de Guglielm-Noweber, vous avez surtout travaillé sur la géo-ingénierie solaire, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et alors là, pareil, c'est une des méthodes d'ailleurs les plus étudiées. C'est par exemple celle qui consiste à ajouter des aérosols dans la stratosphère. On peut peut-être décrire ensemble quels sont justement ces dispositifs.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, la géo-ingénierie solaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la géo-ingénierie, c'est vraiment un terme qui regroupe une très grande diversité de techniques ou de projets techniques, hein, puisque la plupart de ces projets, en fait, ne sont pas matures technologiquement. Donc, il y a aussi une grande diversité de maturité technologique. Parfois, certains projets, en fait, c'est juste un concept qui a été écrit une fois dans un papier scientifique, mais sans donner forcément de suite pour l'instant. Donc, on a une très grande diversité, une grande variété de techniques ou de projets, et ce même au sein de nos deux familles de la géo-ingénierie dont on a parlé. Et alors, au sein même de la géo-ingénierie solaire, effectivement, vous allez avoir donc des pratiques ou des projets qui vont plutôt chercher effectivement donc à interférer en fait avec l'atmosphère globale via l'injection d'aérosols soufrés, hein, donc notamment dans la stratosphère. On a des projets un petit peu plus, on va dire, marqués par l'influence de la science-fiction, de géo-ingénierie spatiale, qui sont malheureusement repris par et médiatisé par des grandes figures comme Elon Musk, hein, pas plus tard qu'il y a quelques jours, qui a fait une petite publicité pour la géo-ingénierie spatiale sur son réseau social X. Et puis des projets alors qui vont être un peu plus locaux, blanchiment des nuages marins. Alors l'idée, en fait, quasiment à chaque fois, l'idée c'est d'augmenter la part de rayonnement solaire qui est réfléchi vers l'espace pour opérer un refroidissement artificiel de la planète. La plupart du temps, ça va se faire donc par l'ajout de particules, on va dire, chimiques dans l'atmosphère, dans les nuages. Et puis parfois, il va y avoir des projets encore beaucoup plus locaux, donc liés en fait, finalement en fait à la modification de la capacité des surfaces, hein, comme nos villes, nos toits, à réfléchir le rayonnement solaire.
En effet, par exemple, cette méthode, hein, ajouter des aérosols dans la stratosphère, ça, Valérie Masson-Delmotte, l'argumentaire, c'est que c'est inspiré d'éruptions volcaniques qui ont en effet cet effet-là, naturellement, de refroidir l'atmosphère. Ça, ce sont des arguments qui banalisent ce type de projet. Enfin, en tout cas, du moins, on entend un peu le bah « là, on fait comme la nature ».
Alors, ce que je voulais dire, en fait, je voulais rebondir sur un point précédent, c'est que on n'a pas parlé de l'aggravation des impacts du changement climatique, des responsabilités, hein, sur le réchauffement historique ou actuel, des enjeux de prise en compte des pertes et des dommages, notamment de ceux qui sont dans les secteurs les plus vulnérables. Et en fait, c'est quand même un contexte dans lequel sont discutées ces options-là, notamment dans des pays qui ont beaucoup émis de gaz à effet de serre et qui ne les réduisent pas fortement, voire qui sortent de l'accord de Paris sur le climat. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et effectivement, donc l'idée de modifier délibérément le rayonnement solaire en injectant des particules, on peut se dire, oui, c'est ce que font les éruptions volcaniques explosives tropicales, comme le Pinatubo en 91 ou le volcan Tambora en 1815, dont on a vu l'effet éphémère, hein, puisque les particules ne restent que quelques années. Et donc, ça a donné lieu à, depuis les années 90, hein, des travaux de modélisation théorique du climat, à partir de scénarios idéalisés, pour voir ce que serait la réponse du climat à de telles injections. On en a fait l'évaluation dans le 6e rapport du GIEC, et l'Académie des sciences vient de rendre un rapport sur ce point-là, en disant bah, qu'est-ce qu'on sait vraiment ? Quelles sont les bases scientifiques, à partir de la compréhension physique du climat, de la modélisation, mais aussi quelles sont toutes les autres dimensions que Marine, justement, regarde explicitement. Et on peut dire que théoriquement, oui, on peut masquer une partie du réchauffement en renvoyant du rayonnement solaire vers l'espace, mais c'est pas parfait. L'effet de serre ne joue pas exactement de la même manière que le rayonnement visible, selon les saisons, selon les latitudes. Il y aurait des effets régionaux qui restent incertains. Quand on met ces particules dans l'atmosphère, ça a tendance à assécher l'atmosphère. Il peut y avoir des effets, par exemple, sur les pluies de mousson, mais qui restent incertains, c'est-à-dire selon le type de particules qu'on met, la manière dont on les met dans l'atmosphère, selon la réponse des modèles de climat, en fait, on a une incertitude qui reste très importante sur les aspects hydrologiques, sur les aspects chimiques de l'atmosphère, parce que ça nuirait à la récupération de la couche d'ozone. On a des incertitudes sur les conséquences pour les organismes vivants ou les écosystèmes. Ça pourrait en fait faire baisser la production d'électricité solaire photovoltaïque, puisque ça joue directement sur ce qui arrive à la surface. Et puis ça n'a pas d'effet sur la hausse des gaz à effet de serre dans l'atmosphère ou l'acidification de l'océan. Donc on voit que ça pose des questions. C'est pas quelque chose qui est complètement mature d'un point de vue théorique, mais les questions fondamentales, à mon avis, c'est pas ces questions de ce qu'on fait dans des modèles de climat, c'est en fait qu'aujourd'hui, il n'existe aucun cadre de gouvernance de ce type d'approche.
Et on reviendra en effet sur toutes ces questions-là, sur l'évaluation faite par le GIEC, comment se pose la question de la gouvernance mondiale par rapport à ces technologies. Une petite précision également, Marine de Gouliel-Mauvébert, on voit parfois dans les textes apparaître le terme intervention climatique, comme si on parlait d'une intervention chirurgicale, maîtrisée et temporaire. J'aurais bien aimé avoir votre regard sur ce vocabulaire-là.
Oui, complètement. Ben, en fait, effectivement, ça fait partie en fait de la diversité des procédés rhétoriques, hein, qui cherchent en fait à légitimer cet ensemble de pratiques ou de projets, hein, de la même manière que vous le notiez un peu plus tôt, on va chercher un peu à mettre en avant le fait qu'on serait en train d'imiter en fait des phénomènes naturels. Donc il y a ce côté un peu mimétisme, on fait rien de nouveau finalement. Et bien de la même manière, on va aussi retrouver pas mal tout un vocabulaire médical qui va aussi résonner avec le contexte dans lequel on est actuellement, qui est quand même un contexte marqué par un très fort sentiment d'urgence climatique, plus largement environnementale, hein, qui est partagé. Et donc vraiment, dans ce contexte-là, on va avoir une géo-ingénierie qui finalement n'est plus défendue comme elle pouvait l'être dans les années 70, 80, quand on parlait plutôt de contrôle du climat, de manipulation de l'atmosphère. Aujourd'hui, on a plutôt cette idée du soin. Et c'est d'ailleurs une idée qui est relayée par la Climate Overshoot Commission, qui est donc une commission qui a été créée il y a 2 ans, spécifiquement hein, pour explorer le potentiel de la géo-ingénierie comme moyen, peut-être comme plan B, hein, finalement, c'est cette idée-là. Mais donc cette idée un peu du soin, du care qu'on va apporter à la planète, c'est aujourd'hui l'une des idées qui sont relayées pour faire de la géo-ingénierie quelque chose d'un peu plus acceptable que ça ne pouvait l'être auparavant.
Valérie Masson-Delmotte.
Oui, et dans le vocabulaire, donc intervention, ça donne l'impression que ça va être temporaire, maîtrisé, alors qu'en fait l'état des connaissances scientifiques montre bien que d'une part il y a des incertitudes, et d'autre part si on ne baisse pas les émissions de gaz à effet de serre, il faudra le faire pendant très longtemps, des décennies, voire plus d'un siècle, avec un risque de dépendance technologique. Et les autres termes qui existent, c'est régénération, technologie climatique émergente, réparation du climat. On voit bien hein, tout ce vocabulaire que décrivait Marine, qui vise en fait à rendre acceptable ce type d'approche.
Alors ce type d'approche, comment sont-elles justement évaluées hein ? Celles-ci qui sont souvent présentées comme des outils de dernier recours, que sait-on de leur faisabilité, de leur efficacité et des risques ? Restez à l'écoute.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Valérie Masson-Delmotte et Marine de Goulilliel-Mauvébert, nous parlons des dangers, des risques de la géo-ingénierie pour modifier le climat à l'échelle planétaire. L'argumentaire, c'est de dire que comme les engagements de l'accord de Paris ne seront pas tenus dans les temps, qu'il est judicieux de disposer d'un palliatif transitoire à cet échec, une sorte de rustine entre guillemets. Du côté des régions polaires, le développement de ces techniques des géo-ingénierie semble déjà bien avancé. On a 5 approches différentes, Valérie Masson-Delmotte, qui sont déjà à l'étude, que vous avez d'ailleurs étudié dans une étude que vous avez fait paraître il y a pas longtemps, en septembre, dans la revue Frontiers in Science. Alors quelles sont justement ces techniques qui sont pensées pour ces régions polaires et leurs limites ?
En fait, c'est des approches qui font l'objet d'une très large promotion vers les décideurs, vers parfois le grand public. Et du coup, avec plusieurs collègues, une quarantaine, spécialistes des régions polaires, finalement, on s'y est intéressé de manière un peu systématique, avec donc 5 approches. Le fait, par exemple, de disperser des petites billes sur la banquise, la glace de mer arctique, pour la rendre plus réfléchissante. Ou bien pomper l'eau de mer et la pulvériser au-dessus de ces zones de glace de mer pour essayer d'épaissir la glace de mer. Ou bien aller chercher l'eau qui lubrifie le glissement de la calotte antarctique dans certains secteurs pour la pomper et la congeler en surface et donc essayer de freiner l'écoulement rapide. Ou bien déployer des rideaux sous-marins ancrés autour de certains secteurs de l'Antarctique, un peu comme à Venise, pour empêcher les eaux chaudes de l'océan d'aller fragiliser les parties flottantes par en dessous. Ou enfin, fertiliser l'océan, c'est-à-dire ajouter du fer dans l'océan austral pour essayer de doper en fait, la captation de carbone par la vie de cet océan. Ou bien, jouer sur le rayonnement solaire de ces régions. Et c'est donc pour ces 5 approches, on a simplement appliqué 6 critères de faisabilité. Donc, est-ce que cela marcherait d'un point de vue purement scientifique ? Quels seraient les risques environnementaux ? Est-ce que ce serait possible financièrement de le mettre en œuvre ? Est-ce que les ressources seraient disponibles ? Quels seraient les coûts d'installation de maintenance ? Quelles seraient les questions et les difficultés de gouvernance en Arctique, en Antarctique ? Est-ce que ce serait possible de passer à l'échelle, c'est-à-dire de le déployer rapidement, en quelques décennies et à grande échelle. Et au final, en fait, on voit qu'aucune de ces options-là ne répond à ce qu'on peut définir comme des approches qui seraient responsables. La plupart de ces approches, elles auraient des dommages environnementaux graves, des risques de conséquences imprévues via la circulation de l'océan, de l'atmosphère. Des coûts, en fait, qui, quand on les regarde sérieusement, sont bien plus élevés que ce que les promoteurs rapportent. Ça demanderait des efforts de centaines de milliards de dollars, au détriment d'autres actions, bien sûr, hein, parce qu'on est à moyen quand même contraint. Et il y aurait certainement, dans les cadres de gouvernance de l'Arctique, de l'Antarctique, un rejet d'opérations de terrain ou de projets à grande échelle. Et la capacité à passer à l'échelle est extrêmement incertaine. Et donc, dans cette évaluation, finalement, quand on fait ce travail un peu sérieux, on se dit que finalement, ça donne c'est un peu l'économie de la promesse. Hein. C'est-à-dire que ça donne l'illusion de solutions sans être déployables concrètement. Et donc, au détriment des efforts de décarbonation. Et c'est ce risque de diversion qui est important aussi.
C'est ça, en fait, c'est que votre étude conclut de cette façon. Hein. Aucune de ces approches n'apparaît viable pour les prochaines décennies, hein, pour sauver la calotte glaciaire. Donc ça, Marine de Gouliel-Maubébert, ça montre bien que un des risques de la géo-ingénierie, c'est cette dangereuse distraction. Détourner les financements de la décarbonation, faire miroiter d'autres solutions pour finalement ne rien changer.
Et tout à fait, en fait, c'est ce qu'on appelle l'aléa moral. Hein. C'est le fait que forcément, le fait de promouvoir cette éventualité, hein, finalement, d'une réparation technologique du climat, ou en tout cas en parler, forcément, ça a un impact sur l'importance qu'on va donner chacune et chacun à l'atténuation. Donc on va dire tout simplement aux politiques climatiques les plus classiques et qu'on connaît très bien, avec ce risque véritablement qu'un certain nombre d'acteurs politiques, industriels, fassent en fait mettre très simplement dans la balance les coûts finalement de la lutte contre le changement climatique. Et là, je parle vraiment en termes économiques, ce que ça coûterait, donc est-ce que ça coûte de mettre en place des mesures ambitieuses de réduction des émissions carbone, des mesures ambitieuses d'adaptation, mettre ça dans la balance d'un côté et de l'autre se dire mais en fait pour quelques centaines de millions de dollars je vais peut-être pouvoir stabiliser le climat donc à moindre frais sans avoir aucunement finalement à faire transitionner mon économie et mon industrie. Et donc quand on regarde ça on se dit bah, forcément c'est la géo-ingénierie le plus intéressant et c'est vraiment ça l'aléa moral. Donc on a de plus en plus d'études qui sont menées en sciences humaines et sociales, en relations internationales, pour essayer de comprendre comment ça affecte réellement les politiques climatiques. Mais ça a un impact sur nos perceptions communes et puis sur les choix qui sont faits. Et on le voit bien au fil des dernières années et de la dernière décennie, on a une place de plus en plus importante qui est accordée à la géo-ingénierie, donc notamment dans les réunions internationales sur le climat. Et ça veut bien dire que un certain nombre d'acteurs, donc encore une fois économiques et politiques, considèrent que c'est vraiment dans leur intérêt d'explorer cette piste.
Mais justement, ces acteurs, Valérie Masson-Delmotte, ces dernières années, les financements augmentent en faveur de ces techniques, les programmes de recherche multiplient, mais qui sont les géo-ingénieurs, qui sont les acteurs, les pays qui financent ces projets?
Alors, on peut souligner qu'il y a une forte montée en puissance de financement privé sur la recherche sur la géo-ingénierie solaire ou polaire. Donc des financements privés d'investisseurs sur des startups, des financements également de quelques fondations philanthropiques qui ont augmenté, un financement assez important d'une des branches du gouvernement britannique, mais qui n'est pas la branche habituelle de financement de la recherche par les pairs, hein, qui était venue plutôt du département du commerce à l'époque. Donc ça, c'est assez frappant. Et puis, ce qu'on peut également souligner, c'est que l'information qui est mise à disposition de ceux qui le financent, c'est une information en fait assez partielle parce qu'elle ne regarde que des aspects techniques isolés, des aspects fragmentés, donc biaisés, parce que ça ne donne pas une vision d'ensemble, des limites, des risques, des effets indésirables. Là, une question fondamentale, hein, c'est si vous intervenez sur le climat à grande échelle et que ça entraîne des dommages collatéraux, quel sera le mécanisme de réparation ? sachant que dans le cadre même de l'accord de Paris, il y a un mécanisme pour les pertes et les dommages, mais ceux qui ont le plus émis historiquement des gaz à effet de serre sont très réticents à contribuer à hauteur de leurs responsabilités, et donc au risque d'avoir des enjeux assez similaires sur ce type d'approche.
On verra en effet comment peut-être surveiller, encadrer ces approches-là, mais Marine de Gouliel-Mauvébert, ce que vient de dire Valérie Masson-Delmotte, ça me fait penser à ce projet d'aspirateur à carbone où typiquement, là, en 2025, on a un projet du nom de Stratos qui est censé absorber 500 000 tonnes de CO2 et qui est soutenu par les compagnies pétrolières.
Oui, bien évidemment. Alors là, c'est la grande spécificité hein, de toute la géo-ingénierie carbone, c'est que, en fait, il y a une compétence qui est déjà là. Hein, c'est la compétence pétro-gazière qui a des décennies et des décennies d'expérience. Et donc, on a à la fois donc une convergence de compétences et une convergence d'intérêts hein, entre la géo-ingénierie du carbone et on va dire les industriels pétro-gaziers qui ont en fait tout intérêt à ce que cette famille-là de géo-ingénierie fonctionne et soit adoptée finalement à l'échelle internationale pour la simple et bonne raison que on va dire leur issue idéale, leur solution finalement idéale à la question climatique, c'est cette idée d'une économie circulaire du carbone. C'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer à brûler et brûler encore des combustibles fossiles et grâce à des technologies, donc notamment à nos aspirateurs à carbone, on va pouvoir récupérer ça dans notre atmosphère et réenfouir ça dans les sols. Et donc c'est assez incroyable comme idée parce qu'à la fois on a une solution au changement climatique, il n'y a plus de problème d'altération de l'atmosphère à cause d'une accumulation du CO2, mais en plus de ça, on assure la pérennité presque infinie finalement de ce secteur énergétique. Et donc ça, c'est vraiment un fantasme qui est très très présent dans cette industrie qu'il faut quand même, et on le fait, confronter à la réalité du champ, qui est toujours la même. Hein. On a des techniques qui sont finalement très peu matures sur le plan technologique, c'est extrêmement coûteux, que ça soulève plein d'enjeux sociopolitiques hein, liés à l'implantation de ces infrastructures, avec cette question de la scalabilité hein, qui est en fait extrêmement difficile à concevoir. Et donc là, on a vraiment un enjeu. Alors en plus, il faut rajouter hein, tous les enjeux de justice sociale et de biodiversité hein, autour de la question du carbone, parce que c'est pas juste une question climatique. Et donc là, on en vient vraiment, et c'est pour reprendre un peu cette expression qu'a Valérie, hein, l'économie de la promesse, on est vraiment là-dedans. C'est le régime des promesses technoscientifiques, avec pour chaque problème environnemental finalement auquel on est confronté, un fantasme hein, d'une solution technologique qui projette en fait un monde tout autre que celui qu'on habite actuellement. Et en l'occurrence, il y a nos techniques hein, de géo-ingénierie carbone, au grand maximum du maximum, elles vont parvenir peut-être à aller capturer certaines émissions résiduelles. Donc, c'est-à-dire tout simplement les émissions issues de certains secteurs qui sont extrêmement difficiles à décarboner. Et donc ça, c'est à la fois le mieux qu'on puisse espérer sur le plan technique et sur le plan politique, mais vraiment ce fantasme qui est agité d'une économie circulaire du carbone, c'est un fantasme qui tout à la fois n'adviendra pas, mais qui est déjà très réel et qui structure finalement notre manière de penser, la manière de penser qu'ont nos dirigeants. Et c'est vraiment ça le cœur du problème de la géo-ingénierie.
Et en effet, l'économie circulaire du carbone, hein, qui est un concept qui est également très poussé par l'Arabie Saoudite, mais je me tourne vers vous, Valérie Masson-Delmotte, vous souhaitiez réagir.
Oui, alors peut-être en fait pour préciser par rapport à ce que disait Marine, cette idée de géo-ingénierie carbone, donc éliminer le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère, le stocker à long terme,
ou
le mettre dans le sous-sol, le stocker dans la biomasse, la végétation, les sols, le stocker dans l'océan. Et aujourd'hui, en fait, hein, ce qui se fait, c'est des pratiques de gestion des forêts, essentiellement. Le reste, c'est très minoritaire. Et par rapport au volet stockage de carbone dans la végétation et les sols, il y a des choses très importantes, hein, préserver tout ce qui stocke du carbone, les zones humides, les tourbières, les forêts, les prairies permanentes, aucun problème, le potentiel est limité. Après, d'autres approches qui viseraient à étendre les surfaces des forêts ou utiliser de la biomasse avec le captage, stockage du carbone quand cette biomasse est brûlée, le risque, c'est qu'on exerce une pression sur l'utilisation des terres qui peut aller au détriment de la production agricole, au détriment de la préservation de la biodiversité des écosystèmes, voire au détriment des droits humains, parce que là où ça se dirige, les pressions, c'est plutôt dans des pays où les droits fonciers sont faibles. Et donc on voit que le potentiel, il est contraint. Du coup, ça a conduit ceux qui promeuvent ce type d'approche à se dire, mais l'océan, finalement, c'est le gros réservoir de carbone, allons-y. Et donc là, il y a aussi plusieurs approches qui sont envisagées. Donc tout ce qui est écosystème côtier, ce qu'on appelle le carbone bleu, là c'est très bien, les mangroves, les herbiers côtiers, c'est efficace, ça apporte plein de bénéfices, mais ce carbone bleu c'est que 0,5% des émissions mondiales que ça permet de stocker chaque année, donc il faut absolument le faire, mais on voit bien que ça ne sera pas suffisant. Du coup, y a des pressions à afforester l'océan, cultiver des macro-algues, donc avec une utilisation assez intensive du littoral pour stocker du carbone dans cette biomasse et voire favoriser sa séquestration au fond de l'océan. Et là, en fait, on voit dans l'analyse notamment faite par l'Académie des sciences que l'efficacité est limitée. Ça peut avoir des effets négatifs sur les écosystèmes et donc c'est pas quelque chose à favoriser. Il y a les autres idées qui montent en puissance, qui sont en fait de jouer finalement sur l'alcalinité de l'océan, c'est-à-dire l'équilibre acide-base. Et là, théoriquement, ça pourrait permettre de limiter l'effet de l'acidification de l'océan et d'augmenter un stockage de carbone sous forme physique cette fois. Et ça, c'est le gros sujet en ce moment.
Et ça, en effet, c'est un sujet que nous avons abordé ensemble lors de l'émission. Je vous invite à podcaster cet épisode sur l'acidification des océans. Alors, beaucoup s'inquiètent qu'il n'y ait pas de réel cadre de gouvernance internationale sur ces questions. Nombreux politiques et scientifiques pointent des risques immenses à perturber ainsi intentionnellement les équilibres planétaires. Et c'est ce dont on va parler dans quelques instants. Chapelier Fou, technologie en direct sur France Culture, car nous parlons des technologies au service du climat en compagnie de nos deux invités du jour, Valérie Masson-Delmotte, climatologue, membre du Haut Conseil pour le Climat et responsable du Centre Climat Société à l'IPSL, et Marine de Guglielmo Weber, chercheuse environnement, énergie et matières premières stratégiques au sein du département AED à l'IRSEM. Dans un monde qui se réchauffe et les réductions d'émissions de gaz à effet de serre restent insuffisantes, de nouvelles technologies donc proposent de refroidir la planète sans toucher pour autant à nos modes de vie. On vient d'évoquer cette économie de la promesse, ces risques moraux. Marine de Guglielmo Weber, quels sont les risques, les évaluations de risques physiques? Parce qu'il y a quand même un grand nombre de risques à ce sujet.
Oui, alors il me semble que Valérie en a énuméré quelques-uns, mais Alors, ça va bien sûr varier selon le type de technique. Et le principal outil aujourd'hui qui nous permet finalement d'anticiper ces risques, ce sont les activités de modélisation numérique, donc qui sont faites par les chercheurs en sciences atmosphériques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ces modèles nous permettent d'éclairer en fait une très faible portion des risques possibles. En fait, pour l'instant, on en sait très peu, et on va retrouver en fait parmi ces risques, notamment la perspective d'un dérèglement donc du système atmosphérique, de certains régimes de pluviométrie. Hein, selon certains modèles, par exemple, le fait de faire de la géo-ingénierie solaire pourrait perturber le cycle des moussons en Asie. Il y a des risques effectivement de dégradation de la couche d'ozone. Généralement, en fait, dans nos évaluations des risques, ça va être surtout centré sur finalement l'impact sur le système atmosphérique, et on parle parfois beaucoup moins des risques pour la biodiversité, mais on peut trouver quand même quelques papiers scientifiques qui mettent réellement en avant notamment la manière dont la géo-ingénierie pourrait mettre en difficulté la capacité des espèces à s'adapter à des variations, on va dire, brutales de température. Alors voilà, il y a un éventail absolument énorme de risques physiques. Et puis, il faut prendre en compte aussi, et c'est ce sur quoi je travaille plus spécifiquement, l'ensemble des risques géopolitiques liés à des interventions de la part de différents acteurs, donc des États, des entreprises privées, sur un bien commun quand même international, c'est-à-dire l'atmosphère.
En effet, le deuxième ensemble de risques concerne plutôt ces risques d'ordre géopolitique et sécuritaire, Valérie Masson-Delmotte. Le fait qu'il n'y ait pas de cadre de gouvernance internationale sur ces questions, c'est une réelle inquiétude ?
Bah oui, c'est le point principal de préoccupation, et ça a été mis à l'ordre du jour de réunions des représentants des différents pays dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et ce que je comprends de cette situation actuelle, c'est que les États-Unis ou l'Arabie Saoudite poussent plutôt à garder ce cadre fermé, c'est-à-dire pas de gouvernance. D'autres pays, par exemple les pays africains, demanderaient qu'il y ait un moratoire. Il y a une prise de position de nombreux acteurs européens, par exemple, les conseillers scientifiques, éthiques de la Commission européenne, ou bien l'Académie des sciences, pareil au Royaume-Uni, qui appellent en fait à un moratoire pour tout déploiement. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Je pense que la question de l'injection délibérée de polluants dans la stratosphère, c'est un sujet sensible, parce qu'il n'y a pas que la question de la géo-ingénierie, il y a aussi en fait la responsabilité par rapport à tous ceux qui opèrent, par exemple, des fusées ou des lancements qui touchent à la haute atmosphère. Donc c'est un sujet sensible également de ce point de vue-là.
Et puis, les rejets, ce que vous dites par rapport à ce cadre de gouvernance, ça vient des pays qui possèdent des entreprises de lanceurs spatiaux, par exemple.
Par exemple, et c'est pas simplement des acteurs publics, c'est aussi des acteurs privés maintenant. Et puis, quand on parlait de risques, donc depuis longtemps, ce qu'on savait, c'est que entre un scénario de fortes émissions de gaz à effet de serre, avec ou sans géo-ingénierie solaire, un des risques, c'est en cas d'arrêt. Puisque les poussières qu'on injecte ne restent que quelques années, bien si on interrompt le déploiement, là il y a un ajustement brutal du climat, ce qu'on appelle un gros choc terminal. Les travaux récents suggèrent un déploiement à plus petite échelle, mais c'est étudié dans des scénarios un peu idéalisés. Je crois, Marine, tu as travaillé sur des scénarios notamment d'acteurs qui ne se coordonnent pas, c'est-à-dire pas simplement un pays, mais peut-être deux pays ou davantage qui le déploieraient de manière non coordonnée. Ça entraîne aussi des risques importants.
Mais c'est ça, c'est si chacun fait ce qu'il veut, son cadre, les interventions qui s'ajouteraient comme ça les unes aux autres pourraient finalement mener à une instabilité climatique encore plus grande, Marine de Goulièm-Mauvébert.
Oui, tout à fait. Et oui, effectivement, pour rebondir ce que tu disais, Valérie, et ça revient aussi à ce que tu mentionnais un peu plus tôt sur le caractère idéalisé donc des modèles sur lesquels on s'appuie. C'est qu'il y a aussi une idéalisation dans le sens où on va s'appuyer sur, on va dire, des variables uniquement physiques, et on va peut-être oublier le contexte géopolitique et sociopolitique qui entoure un déploiement de géo-ingénierie. Et pour le dire un peu plus clairement, en fait, la plupart du temps, quand on se demande quelles seraient les conséquences d'une intervention sur l'atmosphère, on part du principe que, bon, sur le plan géopolitique, il n'y a aucun problème. On a finalement une intervention dans les meilleures conditions possibles. Les acteurs sont coordonnés. On a un partenariat entre donc des acteurs qui vont réussir à faire des injections donc coordonnées exactement au bon endroit, au bon moment, de manière pacifiée. Et en fait, il suffit de regarder aujourd'hui, de jeter un œil à l'état de notre communauté internationale, vraiment pour se rendre compte que ça n'est pas comme ça que ça va se passer. On a aujourd'hui une communauté internationale qui est complètement fracturée, avec une géo-ingénierie qui a tendance à cliver, hein, avec des puissances qui ont du mal à se mettre d'accord sur ce qui est souhaitable, sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, le risque le plus élevé, et c'est ce vers quoi, malheureusement, on s'achemine, c'est effectivement que soit qu'un État ou qu'une entreprise privée fasse ça de manière tout à fait unilatérale. Et dans ce cas-là, il y a un fort risque qu'il y ait des opérations qu'on appelle des opérations de contre-géo-ingénierie, c'est-à-dire d'autres acteurs qui ne sont pas d'accord avec l'intervention vont intervenir par la suite pour neutraliser la première intervention ou pour compenser ses effets. Donc, je vous laisse imaginer le bazar que ça peut faire dans l'atmosphère. Et puis, le deuxième risque, effectivement, sur le plan géopolitique, c'est qu'on ait des actions non coordonnées, puisque, pour l'instant, rien, enfin, aucune infrastructure mondiale de gouvernance ne permet aujourd'hui de se coordonner. Et donc, on est, bien, d'une part, les États-Unis qui lancent une première intervention, et puis, 6 mois après, parce que la communication n'a pas eu lieu ou parce qu'il y a des désaccords, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni fassent leur propre intervention. Donc, tout cela sans aucunement paramétrer les choses en commun. Et donc, c'est ça aussi le problème avec l'absence de gouvernance. C'est tout à la fois l'impossibilité de se prémunir d'une intervention dont on ne veut pas, c'est-à-dire le risque vraiment que ce soit fait de manière non consensuelle, mais il y a aussi le risque que l'intervention soit faite de manière tout à fait catastrophique parce que les acteurs ne se coordonnent pas.
On poursuit avec cette question. La géo-ingénierie peut-elle être malgré tout une solution temporaire? C'est notre reportage du jour. Alors que les techniques de géo-ingénierie se multiplient pour réguler le climat, un procédé naturel de captation carbone offre des preuves d'efficacité, le stockage du CO2 par les sols basaltiques. Et on continue d'en parler avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha.
Joie de vous retrouver à ce micro. Vous êtes
Mais
allée...
joie partagée.
Merci, vous êtes allée à l'Institut de physique du Globe de Paris pour comprendre justement cette approche géochimique.
Oui, une approche qui utilise la porosité des basaltes. En comblant leurs espaces vides, on peut y séquestrer du CO2. Après captage et conditionnement, on l'injecte au cœur des basaltes, là où il va pouvoir précipiter et se minéraliser. Piégé sous forme solide, il reste a priori stable dans la durée. Alors ce procédé a été testé sur le site islandais d'Ailishaidi, une centrale géothermique. Et c'est Isabelle Martinez, professeure à Paris Cité, qui m'a exposé cette méthode. Impliquée dans l'étude des carbonates, elle nous ouvre les portes de son laboratoire pour dévoiler les techniques d'analyse de cette approche et bien sûr ses limites.
Donc ici, on est au 5e étage du bâtiment qui est consacré à la géochimie. Et moi, je travaille plus particulièrement dans une des équipes de géochimie qui est l'équipe de géochimie des isotopes stables. Donc on s'intéresse à mesurer la composition isotopique de divers types d'échantillons, solides, liquides ou gazeux, pour retracer leur origine et en particulier les réactions qui ont pu les affecter.
D'ailleurs, on peut voir à travers les vitres dans ce laboratoire des instrumentations, spectromètres de masse.
Oui, ici on est devant une salle de manip où on voit bien un spectromètre de masse. Là, c'est un spectromètre de masse de dernière génération qu'on appelle l'Ultra, qui mesure des compositions avec une très très haute résolution. Et puis aussi également à côté ce qu'on appelle des lignes d'extraction qui permettent de transformer des échantillons solides, par exemple, en échantillons gazeux, parce que dans ces spectromètres de masse, ils sont à source gazeuse et on est obligé d'introduire des gaz qui sont purifiés. Donc c'est ce que l'on fait sur des lignes comme ça, des lignes d'extraction.
Et notamment, vous étudiez des roches volcaniques basaltiques pour leurs propriétés de captage du CO2 atmosphérique.
Oui, voilà, exactement. Donc je vais vous montrer les roches en question. Donc c'est des roches qui ont plusieurs intérêts qui notamment ont une porosité suffisamment grande pour permettre d'aller stocker des fluides, que ce soit de l'eau riche en CO2 ou du CO2. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple de basalte, donc une roche très, très sombre, hein, qui provient du site islandais, donc d'Elishaidi. Et on voit bien ici la porosité, là, les
petits bulles... trous. Oui.
Ouais, voilà, donc c'est les bulles de gaz. Hein, le gaz s'est échappé au moment de la mise en place. Et donc c'est cette porosité qu'on peut utiliser pour aller la remplir d'un fluide. Et donc notamment dans le cadre du stockage minéral. Ce qu'on utilise, c'est un fluide, une eau, qui est riche en CO2, qu'on a injecté dans cette eau. Et donc, c'est ce fluide riche en CO2 qui va venir interagir avec l'échantillon. Donc, dans le cadre de ce stockage minéral, là, du CO2, l'intérêt, il est que l'altération du basalte, ça va produire des cations, comme par exemple le calcium, le fer et le magnésium, qui sont présents dans le basalte, qui vont être dissous dans le fluide. Et c'est les cations qui sont formateurs des carbonates. Donc, le carbonate, par exemple, le plus courant, c'est la calcite. Sa formule chimique, c'est CaCO3, donc on a besoin de calcium, et ce calcium, il est présent dans le basalte.
Donc en approche de géo-ingénierie, c'est une méthode efficace qui a montré des preuves de robustesse. Et si elle marche à échelle locale, par exemple là en Islande, sur des champs basaltiques, est-ce qu'on pourrait imaginer pouvoir dupliquer cette méthode-là à grande échelle ?
Alors oui, tout à fait. Donc sur le site islandais, le projet c'est d'injecter environ 10 000 tonnes de CO2 par an. Évidemment, il faut multiplier des sites comme celui-ci pour arriver à des valeurs beaucoup plus grandes de CO2 stocké, de l'ordre de la gigatonne par an. Mais c'est tout à fait possible, effectivement. Là, typiquement en Islande, il a été montré que le taux de carbonatation du CO2 qui avait été injecté était de 95% en 2 ans. Donc sur une échelle de temps qui est relativement courte. 2 ans pour un processus géologique, c'est relativement court. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la salle des lignes. Vous voyez, il y a toutes ces lignes de verre qui sont des lignes sous vide. Et donc, le bruit qu'on entend, c'est les pompes qui permettent de faire le vide. Donc, c'est un vide poussé, hein, 10-6 bar. Et donc, c'est des lignes qui permettent justement de produire du gaz à partir d'un échantillon de roche, par exemple. Donc, typiquement, on peut analyser les carbonates pour produire du CO2, pour aller analyser la composition isotopique du CO2 produit.
Alors comment ça se présente cette ligne ? Il y a des cuves, il y a des tuyaux en verre ?
Oui, donc là on a un tuyau principal qui est relié aux pompes qui permettent de faire le vide. Donc là on a le vide principal et en fait vous voyez toutes les parties de la ligne, elles sont reliées à ce tuyau et au moyen de robinet qu'on ouvre ou qu'on ferme, on va faire le vide ou non dans le reste de la ligne. Et ici par exemple on peut placer un tube dans lequel on aura mis un échantillon qu'on va chauffer, par exemple la calcite, si on la chauffe, elle va se décomposer, CaCO3 donne CaO plus CO2, donc ça va produire du CO2. Et ce CO2, je vais pouvoir le faire circuler dans la ligne pour aller le récupérer dans un tube à échantillon. Et donc on le récupère
de l'autre côté de la ligne.
Voilà, on récupère de l'autre côté de la ligne, dans cette partie-là. Donc là, on met les tubes à échantillon dans lesquels on va collecter le gaz. Mais avant, il est envoyé sur cette pompe-là, à mercure, qu'on appelle un topler, et qui permet de quantifier le volume de gaz qu'on a obtenu.
Donc en fonction de la hauteur du mercure.
Oui, voilà, le gaz, quand il arrive, il va pousser le mercure, et en fonction de la hauteur de mercure, puisque le mercure a été déplacé, ça s'est calibré, donc on peut en déduire la quantité de gaz, le volume de gaz qu'on a injecté dans le topler. Et donc on récupère le gaz ici, dans un tube échantillon, pour ensuite aller l'analyser au spectromètre de masse.
On va pouvoir aller le voir ?
Oui.
Géochimie des isotopes stables.
Voilà, donc là on est dans une salle de manip où on a là devant nous un spectromètre de masse à source gazeuse. C'est cet appareil-là qui permet de mesurer la composition isotopique d'un gaz. Donc ce que l'on voit ici, c'est qu'on a pour séparer le CO2 qui contient le carbone de masse 12 et le CO2 qui contient le carbone de masse 13, en fait on fait passer l'échantillon de gaz dans un champ magnétique.
Et donc, c'est pas les bobines,
ouais, non ? Ça c'est un champ magnétique, ouais. Et donc en fait, le champ magnétique, ça va dévier le trajet du gaz au travers du champ magnétique en fonction de la masse.
Et donc, du coup, on sépare, on a deux faisceaux à la sortie. Un faisceau où on a le carbone de masse 12 et un autre où on a le carbone de masse 13. Et ensuite, on a des collecteurs ici qui vont compter les ions qui arrivent dans chacun des collecteurs.
Merci Céline Lozen. Nos reportages loin du studio pour découvrir la science qui se fabrique au quotidien, c'est notre collection La Science au Labo. C'est à retrouver sur votre appli préférée, l'application Radio France bien sûr. Valérie Masson-Delmotte, un commentaire, un retour d'expérience de reportage?
Mais en fait, ça montre bien le travail qui est nécessaire, qui est un travail de recherche, on va dire, quasiment fondamental pour bien comprendre les processus à l'œuvre et puis un travail en laboratoire. Ce qui était également mentionné, c'est un démonstrateur qui a été mis en place en Islande et puis un ordre de grandeur. On voit bien que sur un démonstrateur, on peut montrer qu'on arrive de cette manière-là avec un coût énergétique, un coût financier qui n'est pas négligeable, à pouvoir séquestrer quelques milliers de tonnes de carbone. L'échelle, en fait, c'est qu'on en émet 40 milliards de tonnes chaque année dans l'atmosphère. Donc, on voit bien ces enjeux-là. Et sur beaucoup d'aspects, la question qui est posée, c'est la capacité à passer à l'échelle, le potentiel en conditions réelles, y compris économiques, y compris en termes de disponibilité d'électricité décarbonée pour pouvoir déployer ces approches-là. On a aussi tous ces enjeux de durabilité, de stockage. Alors côté stockage minéral, c'est vrai que là on peut s'assurer d'une durabilité plus grande, mais par exemple quand on veut stocker dans l'océan, eh bien quelle est la capacité à suivre la quantité qui va être stockée? Donc tout le mécanisme de suivi, rapportage, vérification. On peut avoir aussi des effets transfrontaliers, on en parlait tout à l'heure avec l'atmosphère, mais c'est aussi le cas côté océan. Et donc on est sur des questions qui restent ouvertes dans certains aspects où on a besoin en fait de se dire pause. On ne déploie pas nécessairement à grande échelle, mais on établit les connaissances scientifiques sur ces différentes approches pour pouvoir disposer de connaissances en appui à un éventuel déploiement plus tard.
Marine de Gouliem-Mauvébert, finalement, est-ce que on vient de parler des nombreux pièges, des nombreux dangers? Est-ce qu'il faut continuer à faire de la recherche sur ces sujets-là?
Oui, complètement, complètement. Je pense que peut-être même pour aller un peu plus loin, non seulement il faut continuer à faire de la recherche sur le sujet, mais il faut aussi essayer de chercher le plus possible des opportunités pour créer des ponts, pour mettre en place des interfaces entre justement la communauté qui mène de la recherche fondamentale sur ces sujets, la communauté, on va dire, de recherche en sciences humaines et sociales et puis en relations internationales. Et puis, essayer de vraiment faire entendre ces sujets, donc comme vous pouvez le faire maintenant par la voie médiatique et auprès du grand public, parce que l'idée finalement, c'est pas de valider ou d'invalider un développement technologique en soi, mais c'est plutôt d'être au clair sur la manière dont il s'insère dans le monde réel, qui n'est pas seulement un monde technique, hein, c'est un monde sociopolitique, c'est un monde économique. Donc essayer finalement de rassembler le plus possible, d'interfacer les acteurs qui donnent chacun une petite pièce du puzzle et finalement ne pas simplement se saisir des éléments purement techniques pour fantasmer des réalités qui malheureusement n'adviendront pas. Donc c'est vraiment ça, c'est continuer bien sûr la recherche et puis l'interfacer et continuer de la contextualiser pour ne pas malheureusement faire naître de faux espoirs qui pourraient par ailleurs diminuer notre engagement sur ce qu'on sait faire déjà aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment la réduction des émissions de CO2.
Ouais, les faux espoirs, comme vous dites, pour conclure, compte tenu du temps disponible, les efforts doivent donc se concentrer sur la décarbonation, Valérie Masson-Delmotte.
Mais en tout cas, c'est la plupart des observateurs soulignent l'importance de mettre en œuvre ce qui peut être déployé maintenant en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, transition énergétique, etc. Mais aussi les efforts d'adaptation, il ne faut pas les oublier. C'est un point important de les monter en puissance par rapport aux vulnérabilités. Et l'importance d'une recherche public d'intérêt général qui va regarder les questions éthiques, les risques, les limites, en complément de ce qui est promu par des acteurs à intérêt commercial qui se positionnent sur ce segment-là, y compris l'article 6 de l'accord de Paris d'ailleurs.
Mais merci. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. Mais pour prolonger l'écoute, j'invite nos auditeurs et nos auditrices à se tourner vers votre ouvrage, Marine de Guglielmo-Weber, Le Grand Retournement, comment la géo-ingénierie infiltre les politiques climatiques. C'est paru l'an dernier aux éditions Les Liens qui Libèrent, et votre ouvrage, Valérie Masson-Delmotte, Face au changement climatique, aux éditions du CNRS. Merci à vous deux. Tout de suite, c'est la chronique avec science.
Comment se passer de l'expérimentation animale et quelles sont les règles en France? Parce que dans mes chroniques, je parle souvent d'expériences menées sur des êtres vivants et rien qu'en France, on compte environ 2 millions d'animaux utilisés à des fins de recherche chaque année. J'ai voulu faire le point sur les alternatives qui émergent sans entrer dans le débat pour ou contre, mais en regardant concrètement ce qui existe. Pour commencer, il faut comprendre le cadre légal. Selon la directive européenne de 2010, l'expérimentation animale concerne toute recherche susceptible de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille. Premier point important, ce cadre législatif ne concerne que les vertébrés ainsi que les pieuvres, poulpes et autres céphalopodes. Tous les invertébrés, comme les insectes, n'entrent pas encore dans la loi alors que commence à se poser la question d'une éventuelle forme de conscience. C'est donc une première piste d'évolution possible. Sinon, tous les vertébrés, même au stade larvaire, sont soumis à une réglementation particulière et il y a un principe éthique commun, la règle dite des 3 R. Pierre Mormed est vétérinaire, directeur de recherche émérite à INRAE et président du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale.
La règle des 3 R, c'est une règle qui a été énoncée déjà il y a bien longtemps, puisque c'était en 1959. Des scientifiques britanniques, Russell et Birch, ont produit un livre sur l'utilisation des animaux à des fins expérimentales qui soient les plus humaines possibles, comme ils le disaient dans leur langage. Et leur démarche éthique a été guidée essentiellement par 3 principes, qui sont le remplacement des animaux par d'autres approches, parce que si on remplace les animaux par une méthode non animale, eh bien le problème est résolu. Le deuxième principe est celui de la réduction du nombre des animaux utilisés, mais tout en assurant la fiabilité des résultats. Donc c'est important, il ne faut pas diminuer les animaux pour qu'au bout, les analyses statistiques soient plus valables. Et enfin, le troisième principe est le raffinement des procédures, utiliser des analgésiques, par exemple, dans les procédures douloureuses. Toutes les démarches que l'on va utiliser pour assurer une protection maximale des animaux, c'est-à-dire s'en occuper pour limiter les dommages qui sont infligés aux animaux. Et donc, remplacement, réduction, raffinement, eh bien, ça nous fait les 3 R.
S'ajoute à ces 3 R un quatrième qui est de plus en plus souvent mentionné, la retraite ou la réhabilitation. C'est l'un des devenirs de l'animal après l'expérimentation. Soit il est euthanasié, soit réutilisé dans une autre expérience, soit par le biais en général d'associations, il est adopté ou relâché. Il n'y a pas vraiment de chiffres fiables sur ces retraites. C'est probablement de l'ordre de quelques milliers sur plusieurs années. Ce n'est pas rien, mais ça reste encore marginal par rapport au nombre total d'animaux utilisés en recherche. Alors d'abord, il faut que la recherche se fasse dans un établissement agréé. Ensuite, chaque projet doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès d'un comité d'éthique.
Il y a une double tutelle ministérielle, hein, le ministère de l'Agriculture qui s'occupe de l'agrément des structures expérimentales et le ministère de la Recherche qui, lui, est chargé de l'agrément des projets de recherche précisément. Donc, l'utilisateur rédige un projet de recherche qu'il soumet à un comité d'éthique en expérimentation animale. Alors, les comités d'éthique ne sont pas une dépendance du ministère. Les comités d'éthique sont régionaux, hein, au niveau des installations expérimentales, et qui comprennent des scientifiques, du personnel d'utilisation des animaux, et également un vétérinaire nécessairement, et des personnes qui sont extérieures à la recherche et qui donc représentent la société civile dans ces comités d'éthique. Ce comité d'éthique donne un avis, et cet avis, lorsqu'il est positif, bien sûr, il est soumis auprès du ministère, et c'est le ministère qui donne l'autorisation de projet.
Quand on se penche sur les chiffres, on peut être un petit peu étonné. En 2024, sur 3168 projets, 3014 ont été acceptés. Mais en réalité, les projets initiaux ne sont quasiment jamais validés en l'état. Il peut y avoir jusqu'à 8 allers-retours, 8 navettes entre le comité d'éthique et les porteurs du projet pour qu'il y ait des modifications. Malgré tout, le fonctionnement des comités doit évoluer. On peut pointer un manque de transparence, d'uniformisation, d'indépendance, ainsi qu'une absence de réelle évaluation à l'échelle nationale. Les comités d'éthique sont bénévoles, régionaux et dépendent parfois d'un seul centre de recherche. Ils sont composés de scientifiques eux-mêmes expérimentateurs, ce qui les rend juges et parties. Ce que demandent les comités de leur côté, c'est que l'aspect éthique soit pris en charge beaucoup plus tôt, dès la demande de financement de la recherche, parce qu'il est impossible de séparer évaluation scientifique, donc la valeur du projet, de l'évaluation éthique. Or, c'est dès le début que l'on peut déterminer si l'utilisation de l'animal est vraiment indispensable.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.